Vous voyez, tout ce qui n'est pas dans la tête, il faut que ce soit quelque part. Voilà, est-ce que le micro est bien réglé? J'ai l'impression d'entendre ce que j'entends. Alors, l'essentiel, je le disais hier déjà, pour ceux qui étaient là hier, l'essentiel dans une retraite, c'est pas les enseignements, et puis c'est quand même la prière. Donc, un petit mot sur la prière, à chaque début d'enseignement. Voilà, pour le moment, nous avancerons comme ça. Vous savez qu'on n'invente rien, en fait. Nous sommes en train de vivre depuis hier une retraite dans la vie, hein. On ne s'est pas extrait dans un foyer de charité ou dans une communauté ou dans un monastère pour vivre une retraite. Non, on est là au milieu de nos activités quotidiennes et puis il y a le quotidien. Et au cœur du quotidien, il y a ce temps d'arrêt, ce temps de break, ce temps de pause. Voilà. Et puis en même temps, cette présence ici, dans cette retraite, dans la vie du Saint-Sacrement qui... quand vous revenez de vos courses et que vous passez devant l'église, vous pouvez vous arrêter, le Seigneur est là, même si vous avez vos poireaux avec, hein, il aime bien les poireaux aussi. Hein, à l'époque, au pied de l'autel, on amenait des patates, des poireaux, du maïs, enfin voilà, hein, l'offrande. Maintenant, il reste quelques cents, hein, pour signifier tout ça. Mais donc, le Seigneur est là, et en fait, on n'invente rien. Le premier à avoir suivi une retraite dans la vie, c'est Jésus lui-même. Et donc nous ne faisons pas autre chose que de nous mettre à son école. Si nous prenons, par exemple, hein, voilà deux petits exemples dans la parole de Dieu pour illustrer ce que je viens de vous lire dans l'évangile de Matthieu. Au chapitre 14, voilà, Matthieu, chapitre 14, Jésus vient de nourrir une foule, hein, ils étaient 5000 hommes sans compter les femmes. Alors on demandera plus tard pourquoi il n'y a pas compté les femmes. Peut-être c'était difficile à compter, il courait derrière les enfants, donc les femmes et les enfants c'était difficile à compter. Enfin, on verra bien, on lui posera la question plus tard. Mais donc, ils étaient nombreux, hein, rien que les hommes, c'est déjà 5000, il vient de les nourrir. Donc il a fait son boulot quelque part, il travaille, il est dans Jésus, il est dans la vie, il est dans son job, il est dans sa mission, hein, et il vient de nourrir cette foule. Et puis je lis avec vous au verset 22 du chapitre 14 de Matthieu. Aussitôt Jésus obligea les disciples à remonter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive. Pendant qu'il renverrait les foules, il termine le travail, la mission qui est la sienne pour ce jour-là. Il envoie ses disciples, voilà. Le précéder, ça veut dire qu'il va les rejoindre. Hein. Mais d'abord, il termine avec la foule. Alors, vous avez été prudent avec le micro aujourd'hui, c'est bien. Je risque pas de le mettre par terre, presque. Et puis... Après avoir renvoyé les foules, il monta dans la montagne pour prier. Voilà. Jésus vit sa retraite dans la vie. Entre deux activités, il a nourri les foules. Il va aller rejoindre ses disciples qu'il envoie en avant de lui sur l'autre rive. Eh bien, il se retire dans la montagne pour prier. Voilà. Un deuxième exemple, dans l'évangile de Luc, par exemple, au chapitre 5, nous allons encore voir Jésus au travail, et puis une prière. Voilà. Chapitre 5 de Luc, verset 12 et suivant. Comme il était dans une de ces villes, un homme couvert de lèpre se trouvait là. À la vue de Jésus, il tomba la face contre terre et lui adressa cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le touche et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta. Alors Jésus lui ordonna de n'en parler à personne. « Va-t'en plutôt te montrer au prêtre et fais l'offrande pour ta purification, comme Moïse l'a prescrit, ils auront là un témoignage. » Vous voyez, on voit Jésus au boulot. On voit Jésus au boulot, là. Ah oui, il guérit, il rencontre, il parle, il relève, voilà. C'est son job, c'est son boulot. Il donne un conseil, va plutôt, tac, et ce sera pour eux un témoignage, voilà. Verset 15, c'est le suivant. On parlait de lui, Jésus, de plus en plus, et de grandes foules s'assemblaient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ça veut dire qu'il y a du monde, il y a du boulot, il y a de grandes foules qui sont là. Non seulement il travaille, il a guéri, etc., mais comme plus voilà, il guérit, plus les gens viennent à lui, plus il pourrait se dire « j'ai pas le temps de m'arrêter », voyez. Eh bien, verset suivant, « alors que de plus en plus les foules s'assemblaient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie, et lui se retirait dans les lieux déserts et il priait. » Vous voyez, notre traite dans la vie, eh bien, nous emboîtons le pas à Jésus. Et c'est fantastique. Et Jésus nous éduque ainsi à pouvoir prendre un temps d'arrêt. Voilà, ça c'était le petit apéritif, la petite note prière pour aujourd'hui, en ouverture de cet enseignement. Voilà, nous mettons nos pas dans ceux de Jésus, qui lui-même a vécu un va-et-vient dans sa vie, entre les moments où il est, je vais dire, au front de son boulot, à la rencontre des gens, tantôt un lépreux seul, tantôt 5000 hommes qu'il nourrit, peu importe, il va guérir, ce sera, voilà, il est sur les routes de Galilée, il est en chemin, et puis ce va-et-vient entre son travail, et puis ce retrait à l'écart, dans le désert, sur la montagne, et là, il priait, il prend un temps d'arrêt. Pensons-y quand nous vivons cette semaine de retraite. Voilà. Pour ceux qui étaient là hier, nous avons parcouru voilà, cette grandeur de Dieu qui a soif qu'il y ait la vie, et qu'au cœur de la vie, il y ait l'humain qui soit là, et cet humain, il est dans le cœur de Dieu, situé d'une façon particulière au cœur de sa création, pas comme les autres créatures, non, et il est aussi une créature particulière, puisque voulu de lui à son image et comme à sa ressemblance. Et puis il y a un verset que j'ai pas vu avec vous hier, hein, il était déjà tard, mais Dieu vit que cela était... Bon, vous n'êtes pas assez ambitieux. Très bon. Voilà, Dieu vit que cela était très bon. Eh bien, voyez, il ne faut pas attendre le Nouveau Testament pour voir le regard de grande bonté, il vit que cela était très bon, que Dieu pose sur l'homme. Dès les premières pages de la Genèse, nous le trouvons. Et nous avons fait des liens hier, déjà, entre l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, cette lumière pour éclairer les nations que Siméon reconnaît en la personne de Jésus et qui faisait comme écho, hein, c'est juste un petit ramassage pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, et qui faisait comme écho à ce premier verset de la Genèse, « Au commencement, Dieu dit que la lumière soit ». Et cette lumière du premier verset de la Genèse n'est pas sans lien avec cette lumière que Siméon reconnaît en Jésus dans les mains au moment où Marie et Joseph, se conformant à la loi, vont le présenter au temple. Alors, je voudrais que nous nous émerveillions, du miracle de l'incarnation. Voilà, ce soir, que nous nous émerveillons du miracle de l'incarnation. Voilà. Vous savez, c'est impressionnant. C'est unique dans la foi chrétienne. Hein? Notre foi, elle est unique. Vous ne trouvez cela dans aucune autre religion. Dieu qui s'incarne. Et je viens de signifier ce regard que Dieu pose dès les origines sur l'humain et sa création. Dieu vit que cela était très bon. Et l'incarnation, c'est-à-dire que Dieu prenne chair. Voyez, cette fois-ci, pardonnez-moi, là c'est peut-être pas très théologique, mais bon, c'est pas grave, hein, que Dieu, cette fois-ci, se fasse à l'image de l'homme. Voyez, quelque part, ce que je veux dire. Hein? Alors, en même temps, on comprend que c'est pas tout à fait juste, parce que l'homme est pécheur, Dieu ne se fait pas à l'image de l'homme en tant qu'il serait lui-même pécheur. Il en épousera le péché de l'humanité, mais ça c'est autre chose, lui-même ne l'est pas. Mais quelque part, il prend, hein, c'est un peu un abus de langage que je viens de dire, mais il prend chair de notre chair. Il se fait tout Dieu qu'il est, eh bien, il s'incarne. Il ne reste pas un Dieu éloigné, un Dieu loin, un Dieu je ne sais quoi. Non, non, son amour pour l'être humain est à ce point immense. Eh bien, qu'à un moment donné, il se dit, mais moi, je descends en chair et en os. Tout en restant Dieu, je me fais l'un d'eux. Oh, c'est immense. On ne s'émerveillera jamais assez, de l'incarnation. Et de ce que cela nous révèle, de l'importance que révèle l'être humain pour Dieu. C'est inouï. Cela dit, le fait que Dieu se fasse homme, hein, cela dit tout le prix de l'homme dans le cœur de Dieu. Cet homme qui est loin d'être parfait, hein, eh bien, Dieu vient y planter sa présence concrète. Il s'incarne, il se fait homme. Vous savez, il y a une prière eucharistique, la prière eucharistique numéro 4, hein, qui nous dit de Jésus qu'il a vécu en toute chose notre condition humaine, excepté le péché, bien sûr. Il n'est pas pécheur. Mais il a vécu en toute chose notre condition humaine. C'est pas rien. Et c'est repris d'ailleurs à la parole de Dieu. Mais donc, l'incarnation, voilà. Cette lumière qui donne vie, comme on l'a vu hier, et qui se fait chair, qui ne reste pas lointaine. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a ce très beau passage dans le livre de l'Exode où Yahvé va s'adresser à Moïse pour lui confier sa mission de conduire le peuple hébreu au-delà de l'esclavage qu'il subit en terre d'Égypte. Je lis avec vous ces versets. Ils viennent donc du livre de l'Exode, au chapitre 3, les versets 7 et suivants, 7 à 10. Le Seigneur dit à Moïse, j'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. Le Seigneur voit la misère de ses enfants que nous sommes, comme de son peuple jadis en Égypte. J'ai vu la misère et j'ai entendu ses cris. Voilà. Le Seigneur a des yeux, mais il a des oreilles. Vous vous rappelez le psaume qu'on a prié tout à l'heure pendant la messe. Enfin, si vous voulez, vous irez relire. Mais c'est ça. Le Seigneur, il voit, le Seigneur, il entend. Et puis, il est là. J'ai entendu ses cris sous les coups des chefs de cordée. Voyez combien. Alors moi, ce qui me touche quand je lis ça, c'est que Dieu, créateur comme nous l'avons vu hier, il est sensible à ce que vit sa créature. Il est sensible. Il a entendu ses cris sous les coups des chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Il voit, il entend, il connaît. Je connais ses souffrances. Je connais les souffrances de mon peuple qui est en Égypte. Et puis ce verset qui suit, je suis descendu. Voyez, je suis descendu pour le délivrer, ce peuple, de la main des Égyptiens. Ah ben moi, quand je lis ça, je fais de nouveau un viaduc avec le Nouveau Testament. Je suis descendu, pour moi ça c'est le mouvement de l'incarnation, hein. C'est Dieu qui se fait chair. C'est Dieu qui ne reste pas un Dieu lointain, qui se fait chair. Je suis descendu, mais c'est Noël, entre guillemets, déjà, qui est annoncé. Je suis descendu, pourquoi? Pour le délivrer. Le délivrer. Alors après, mettez-y les mots du Nouveau Testament. Le relever, le sauver. Et on verra tout de suite que si Jésus s'appelle Jésus, c'est parce que Jésus, c'est Dieu qui sauve, justement. Qui sauve. Voilà. Mais je vois déjà ça dans ces versets. Pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre d'esclavage, terre dure, voyez, vers une terre spacieuse et fertile. Voyez, de nouveau, on retrouve ce qui est fertile. Voilà, ce qui va permettre la vie. Enfin bon. Hein? Vers une terre ruisselant de lait et de miel, vers le pays de Canaan. Alors là, petite culture biblique, pays de Canaan, le pays, la terre promise à Abraham, etc. Hein? Le pays pour lequel tu es fait, c'est ça que ça veut dire. Je viens te rejoindre là où tu es pour t'extraire là de ce qui t'empêche de vivre et pour te conduire vers le pays de Canaan, c'est-à-dire vers la terre pour laquelle tu es fait. Cette terre promise. Alors, ce qui est curieux, j'ai pas le temps sur ce type de retraite, mais alors en effet, ça va être tout le travail d'une traversée du désert pendant 40 années. Donc ça ne va pas se faire en un clic de souris. Voilà. Hein? Ça ne va pas se faire en un clic de souris. Mais ça va se faire. Ce travail de libération. Ce travail, voilà, d'accueillir Dieu qui descend. Je suis descendu. Et pour te délivrer, présentons-lui pendant cette retraite, quand nous viendrons prier en revenant du marché ou quand on s'est inscrit à une œuvre d'adoration ou que sais-je, présentons-lui là où j'ai besoin d'être délivré, parce que là ça ne vit pas dans ma vie. Voyez ? Et puis en même temps, acceptons que le Seigneur en voit, entend, tient compte, descend, c'est Noël, descend pour délivrer, mais en même temps que cette délivrance est un chemin et ce n'est pas un clic de souris. Pour le peuple d'Israël, 40 années de traversée avec des hauts et des bas. Voyez, avec des hauts et des bas. Dans quel chemin de vie n'y a-t-il pas des hauts et des bas? Dans la traversée. Et le Seigneur accompagne cette traversée du peuple d'Israël, comme il accompagne la traversée que peut être la mienne. Et puis, Yahvé continue en disant à Moïse, « Oui, la clameur des fils d'Israël est parvenue jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression. » Vous savez, quand on est oppressé, on ne respire pas bien, hein? Eh bien, le peuple d'Israël, il vivait l'oppression. Puis nous, parfois, on vit des oppressions. J'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Et maintenant, dit-il à Moïse, va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Alors vous imaginez pour la petite histoire, Pharaon il bégaye, donc tout à coup il se dit c'est pas pour moi d'aller trouver, pas Pharaon, Moïse bégaye. Hein? Et donc il se dit mais c'est quand même pas moi qui vais pouvoir aller trouver le roi d'Égypte, Pharaon. Et donc Moïse il cherchera un peu à se débiner, mais le Seigneur est têtu, c'est Moïse qu'il veut, c'est Moïse qu'il appellera, et c'est Moïse qu'il aidera, c'est à Moïse qu'il donnera à Aaron, c'est à Moïse qu'il donnera son bâton, le Seigneur, pour qu'il puisse accomplir contre l'Égypte ce qu'il aura à accomplir, les plaies d'Égypte, etc. Et donc c'est un chemin de libération. Mais voyez, je suis descendu. Et donc, avec vous, je veux nous remettre dans le cœur et sous les yeux cette grandeur de l'incarnation qui commence bien sûr dans le Nouveau Testament. Et puis c'est volontaire, je reviens avec vous, dans l'Ancien Testament. Parce qu'il y a quelque chose de ce mouvement-là déjà qui se vit avant l'incarnation proprement dite. Et du reste, j'ai besoin de mon copier. Oui. Et du reste, le miracle de l'incarnation, comme je l'appelle, était déjà annoncé par les prophètes. Et entre autres, le prophète Isaïe. Vous voyez, depuis hier, hein, je fais des ponts entre l'Ancien et le Nouveau Testament pour que, comme chrétien, on ne se dise pas, moi, c'est le Nouveau Testament, je suis chrétien. Pas besoin de l'Ancien. Faux. Ce sont nos racines, l'Ancien. Ce sont nos racines. Vous contemplez la beauté d'un arbre, je crois que les petits cerisiers, machin, un peu sauvages, rouges, là, commencent un peu à fleurir prématurément, hein. Mais vous contemplez la beauté de l'arbre, mais vous ne voulez pas voir qu'il a des racines. Mais s'il n'y a pas de racines, il n'y a pas d'arbre. Hein. Redécouvrons nos racines. Ne nous coupons pas de nos racines. Oh, mais alors je vais entendre toutes ces critiques. Mais dans l'Ancien Testament, il y a des tas de pages qu'on ne comprend pas. Il y a de la violence. Mais c'est vrai, moi, il y a des pages que je ne comprends pas. Ça ne m'effraie pas. Je suis pas tout à fait encore peut-être au bout de ma vie, j'en sais rien, peut-être ce soir sera fini, j'en sais rien, j'espère que non, pour vous retrouver demain, mais ça ne m'appartient pas. Mais j'ai toute la vie pour creuser, quoi. Et avec ce qu'on creuse, on avance, et on goûte de plus en plus. Pas besoin de tout comprendre au premier coup, ou de tout comprendre pour dire maintenant, ok, je peux garder l'Ancien Testament. Non. Voilà. Nous irons là des racines. Il faut prendre cela en compte pour réaliser combien toute l'histoire de l'alliance, de la communion, si vous voulez, de Dieu avec sa création et l'homme en particulier, est une seule histoire. Même si on la découpe en Ancien Testament et Nouveau Testament. D'ailleurs, de plus en plus, il y a des voix qui se font entendre pour dire « Ne parlons plus trop d'Ancien et de Nouveau, parlons du premier et du second. » Voilà. Bon. Oui, l'incarnation est une radicale nouveauté, bien sûr. Il y a une alliance renouvelée. Renouvelée. Nous sommes au début du carême, ce qui nous conduit à Pâques. À Pâques, je vous disais hier, nous allons, tout est renouvelé. Tout est renouvelé. Par la mission qu'apporte le Christ au cœur de l'humanité. Donc en effet, tout est renouvelé. C'est une radicale nouveauté, l'incarnation, qui peut-être plus qu'inaugurer une nouvelle alliance, inaugure un nouveau visage de cette alliance que Dieu veut de toujours à toujours avec l'être humain. Un nouveau visage. Alors maintenant, je lis avec vous l'incarnation qui nous est annoncée chez le prophète Isaïe, au chapitre 11, En fait, vous voyez, je parcours avec vous. On va s'émerveiller de Jésus, mais on veut voir que Jésus ne vient pas de nulle part. Vous voyez ? Chapitre 11, verset 1. Un rejeton sortira de la souche de Jessé. Rejeton, c'est dans la traduction de la Bible de Jérusalem. Si vous lisez la traduction écuménique de la Bible, c'est le mot rameau. Un rameau sortira de la souche de Jessé. Rameau, moi ça me ramène quelque part à la Genèse. Hein? Ce rameau de cette nouvelle création quelque part déjà après le déluge. Moi, je fais un lien. Hein? Ça me ramène à ça. Un rameau sortira de la souche de Jessé. Alors il faut comprendre évidemment. Hein? Jessé. Hein? Je lis la note dans ma Bible. Voilà. Jessé, père de David. Père de David. OK. Et Jésus va naître de qui ? De la Vierge Marie, mais il sera de la lignée de David, par Joseph. D'accord ? Voilà. Donc je lis la note dans ce qu'elle a de complet. Jessé, père de David et ancêtre de tous les rois de Juda et du Messie. Et du Messie. Vous voyez ? Eh bien, de cette racine qu'est Jessé, il va naître, va sortir un rejeton, un rameau. Voilà. Ce qui va inaugurer ce renouveau. Ça sortira pas de nulle part. Vous voyez? Mais de la souche de Jessé. Un surgeon poussera de ses racines. Et voyez, Jésus sera ce rameau. Jésus sera ce surgeon de la lignée davidique, lui-même, fils de Jessé, pour porter et apporter ce renouveau de création pour l'homme et pour la création en général. Et comment le fera-t-il? En libérant du péché qui oppresse l'homme. Voyez, j'ai vu son oppression. En libérant du péché qui empêche l'homme de vivre, d'être le vivant qu'il est appelé à être. C'est comme ça que Jésus va être ce rameau, inaugurant ce renouveau de création pour l'homme et pour la création tout entière, en libérant cet homme et la création d'ailleurs. Il n'y a pas que l'homme qui sera libéré du péché. Parce que qu'est-ce que la création souffre aussi du péché? Ben oui. Le pape n'arrête pas de nous en parler. À prendre soin de notre maison commune. Hein? Et puis d'autres aussi d'ailleurs. Une prise de conscience. Tout à coup, tiens, oui. Et ça, le Christ viendra inaugurer ce renouveau pour la création tout entière. Libérant cette création et l'homme de ce qui l'oppresse et l'empêche d'être le vivant qu'il est appelé à être. Et c'est ainsi qu'alors, à la fin de la quatrième prière eucharistique, toujours lors de la messe, eh bien, c'est presque dans un mouvement de joie qu'on s'émerveille déjà qu'avec la création tout entière, enfin libérée du péché et de la mort, nous pourrons te glorifier. Vous avez déjà entendu ça à la messe? Mais c'est ça, hein? Avec la création tout entière, enfin libérée du péché et de la mort. Ah, ben voilà! Et tout ce renouveau est issu d'une souche, le rejeton qui jaillira, qui sortira de la souche de Jessé, père de David, lui-même ancêtre de Joseph, de qui, par son union avec la Vierge Marie, naîtra Jésus le Messie. Et du coup, on comprend le verset qui suit, parce que Jésus, hein, le Messie, Messie en hébreu, hein, ou Christ en grec, si vous voulez, eh bien, ça signifie celui qui est oint. D'accord? Celui qui a reçu toute l'onction en plénitude. Et toute l'onction, c'est tout l'esprit. Tout cet esprit. Ça va? Alors, du coup, on comprend le verset qui suit. Un surgeon poussera de ses racines, vous avez compris. Sur lui reposera l'esprit de Yahvé. Ah voilà. Sur lui reposera l'esprit de Yahvé. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Yahvé. Voilà. Sur ce rejeton qui sort de la souche de Jessé, sur lui reposera l'Esprit Saint, pas sur un autre, sur lui. Et alors maintenant, nous revenons au Nouveau Testament, ce rejeton, à un moment donné, il va naître, il va prendre le visage et la forme de Jésus, et puis Jésus va grandir à Nazareth, etc. Hein? Je vais directement plus loin. Et puis, le début du ministère public de Jésus commencera par le baptême de Jésus. Commencera par le baptême de Jésus. Et que se passe-t-il au baptême de Jésus? Les cieux s'ouvrent, et qu'est-ce qui lui tombe dessus? Voilà, on y est. L'Esprit Saint. Je lis avec vous. Vous saisissez la cohérence de la parole de Dieu. C'est important de la saisir. Chapitre 3, verset 21 de Saint-Luc. Jésus, baptisé lui aussi, comme tout le peuple était baptisé, Jésus, baptisé lui aussi, priait. Alors le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint descendu sur Jésus. Isaïe disait, sur lui reposera l'Esprit de Yahvé, ok, maintenant on y est, l'Esprit Saint descendit sur Jésus sous une apparence corporelle comme une colombe et une voix vint du ciel, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Voilà. Donc à la fois de la souche de Jessé et à la fois pas comme tous les autres descendants de la souche. Il n'est pas créé par Dieu, mais engendré. Ah, ça nous ramène au credo. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Et par lui tout a été fait. Engendré. Non pas créé. Donc il sera de la descendance de Zéchef. Merci. Mais pas comme tous les autres descendants. Et donc, là, il nous faut pouvoir accueillir, si du moins nous voulons être chrétiens, que quand nous regardons le miracle de l'incarnation et que nous contemplons Jésus, je le contemple comme étant vraiment homme et vraiment Dieu. Si je ne vois que le vraiment homme et que je n'y vois pas Dieu, je suis libre. Mais alors, que je sache que je ne suis plus chrétien. Les deux. Il faut tenir les deux. Parce que cet homme Jésus n'est pas une créature. Comme nous l'avons vu hier, en long et en large, il est engendré. Et c'est bien pourquoi il est le Fils unique. Voilà. Ça n'empêche pas que nous soyons fils et filles de Dieu, hein, différemment. Est-ce qu'on suit dans tous les voyages là, que je fais, Ancien, Nouveau Testament? J'ose plus demander si quelqu'un est largué, parce que comme j'ai vu que hier, personne n'a osé répondre, et pourtant j'ai pas l'impression d'être si clair, donc je me dis que peut-être on n'ose pas répondre quand on pose cette question. Mais voilà. Mais voyez, il y a quelque chose qui est passionnant en fait. Et tout ça, parce qu'en fait, ce Jésus, sa mission, on va le voir tout de suite avec Joseph. Donc sur lui reposera l'Esprit Saint. En effet, dès le livre d'Isaïe, là, avec cette citation, comment ne pas y voir, pardon, l'annonce claire du Messie, le Christ, le oint par excellence. Ainsi, ce surgeon, ce rameau, dont Isaïe nous dit qu'il sortira de cette souche, de cette racine, de Jessé, c'est Jésus. En témoignent aussi les deux généalogies que nous avons dans l'Évangile. La généalogie dressée par Matthieu. Et vous savez, quand on lit Ça arrive une ou deux fois par an, là, quand on lit la généalogie. Hein, 14 générations de un tel à un tel, et puis un tel épousa, et de son union avec, etc., etc. Et ça nous semble laborieux, et c'est laborieux, hein, quelque part. Parce qu'en plus, les deux généalogies ne sont pas les mêmes. Oh, oui. Mais c'est fondamental. Il nous faut goûter que Jésus ne tombe pas de nulle part. Que Jésus s'inscrit dans une histoire. Ah, ça commence à nous parler du coup. Jésus s'inscrit dans une histoire. Et c'est au cœur d'une histoire qu'il vient naître. Mais c'était vrai jadis. Mais c'est vrai encore aujourd'hui, quand Jésus s'incarne, et il n'arrête pas de s'incarner, il ne s'incarne pas à côté d'une histoire, il s'incarne au cœur d'une histoire. Laissons naître Jésus au cœur de nos familles, eh bien il va naître au cœur de l'histoire de nos familles, et pas à côté. Et on n'aura jamais fini de lui demander de venir naître au cœur de notre histoire. Mais voilà. Alors, ces deux généalogies, qui sont en effet différentes, ont des points communs fondamentaux, entre autres sur la filiation de Jésus, annoncée par Isaïe, comme étant Jésus, fils de Joseph. On le retrouve dans les deux généalogies, et qui lui-même est descendant de David. Voyez, fils de Jessé. En fait, la généalogie de Matthieu, voilà, ça c'est pour la petite info, je ne m'étends pas là-dessus. La généalogie de Matthieu se restreint à l'ascendance israélite du Christ. Elle vise à le rattacher aux principaux dépositaires des promesses messianiques, que sont Abraham et David, ainsi qu'aux descendants royaux de ces derniers. La généalogie de Matthieu met l'accent dans ce sens-là. Voyez ? Et elle part des ancêtres pour arriver à Jésus. La généalogie de Luc, elle est plus universaliste et elle remonte jusqu'à celui qu'on a vu hier, Adam. Elle est plus universaliste, elle remonte jusqu'à Adam. Et elles ont ce point commun que je viens de signaler. Et dans la généalogie de Luc, vous verrez que Luc, si vous voulez les références pour ceux qui s'intéressent, chez Matthieu c'est chapitre 1, verset 1 à 16, Matthieu 1, 1 à 16, et Luc chapitre 3, verset 23 à 37, et là on part dans l'autre sens, Jésus, fils de lui-même est fils de, et fils de, et fils de, et fils de, fils de, fils de, fils de, on remonte jusqu'à Adam. Voilà. Et dans ces deux généalogies, aux accents différents, l'ambition étant de mettre l'accent sur des éléments différents, plus généralistes, plus descendants des royaux, etc., il y a ce tronc commun qui nous est, que l'on a visité dans Isaïe. Jésus, descendant, fils de Joseph, de la lignée de David, qui vient de la souche de Jessé. Émerveillons-nous du miracle de l'incarnation. Il est annoncé bien avant son heure, dès l'Ancien Testament. Et finalement, voyez, cette approche de l'incarnation par le lien à l'Ancien Testament nous donne, puisqu'il est de la lignée de David, par le biais de Joseph, eh bien ça nous donne de dire un mot de Joseph. Un mot de Joseph, maintenant. Saint Joseph. On n'en parle pas beaucoup, c'est dommage. Saint Joseph. Et en fait, oui, je voudrais continuer ce soir en mettant sous les yeux ces deux personnages extraordinaires que sont Joseph et Marie. Parce que ce sont les deux premiers, il n'y en a pas eu d'autres avant eux, dans l'histoire de l'humanité qui ont accueilli Jésus. Il n'y en a pas eu d'autres. Ils sont donc le prototype de l'accueil du Christ. Voyez. Alors c'est toujours intéressant, nous comme chrétiens, on veut aussi pouvoir essayer d'emboîter petit à petit le pas au Christ et pour cela accueillir qu'il naisse aussi dans notre vie aujourd'hui pour lui emboîter le pas. Les deux premiers à l'avoir fait, c'est Joseph et Marie. Vous pouvez tourner ça comme vous voulez, il n'y en a pas d'autre. Donc c'est intéressant de les contempler. En plus, en ce mois de mars, c'est le mois de Saint-Joseph. C'est le mois de Saint-Joseph. Et on terminera tout à l'heure en confiant toutes nos familles à la Sainte Famille, à Marie, à Joseph, bien sûr, au Seigneur. Alors, ce grand mystère de l'incarnation, il est donc, bien sûr, l'œuvre du Père. Hein? Rappelez-vous, au baptême de Jésus, on vient de voir, tu es mon fils, je t'ai engendré. C'est l'œuvre du Père. Que Dieu se fasse homme, s'incarne, c'est l'œuvre de Dieu le Père. Mais c'est une œuvre de Dieu le Père qui s'est réalisée par l'Esprit Saint parce que rappelez-vous lors de l'annonciation de l'ange à la Vierge Marie, l'ange lui la salue, lui dit qu'elle a trouvé grâce aux yeux du Seigneur et qu'elle va enfanter un fils qui sera le fils du Très-Haut. Et Marie, et c'est heureux qu'elle questionne l'ange, lui dit, mais comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation conjugale? Comment cela se fera-t-il? Et la réponse de l'ange, à ce moment-là, je prends la parole de Dieu pour rester bien fidèle au texte, c'est dans l'Évangile de Luc au chapitre 1. La parole de l'ange à ce moment-là est la suivante. Donc comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation conjugale? L'ange lui répondit, l'Esprit Saint, voilà, ça se fera par l'Esprit Saint, toi. L'Esprit Saint viendra sur toi, sous-entendu, c'est pas un homme qui viendra sur toi pour faire naître cet enfant, hein? L'Esprit Saint, ton sein sera fécondé par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. L'Esprit Saint, voyez. Donc, l'incarnation, c'est l'œuvre du Père qui engendre son Fils, ça va? Mais cela va se réaliser par l'Esprit Saint qui va féconder le sein de Marie. Voyez. Alors, si nous allons voir tout de suite dans l'annonce à... Vous voyez, donc ici, c'était le chapitre 1, verset 35 de Luc. L'Esprit Saint viendra sur toi, chapitre 1, verset 35. Et puis nous allons voir l'Annonciation à Joseph. Hein, parce qu'on parle toujours de l'Annonciation comme étant uniquement la Vierge Marie, la Vierge Marie. Ah, j'aime beaucoup la Vierge Marie, hein, attention. Hein. Beaucoup. Mais Joseph, il a son Annonciation aussi. Hein. Et Dieu, il a voulu que Joseph soit là. Hein. Et Joseph a eu une mission fondamentale pour que nous connaissions Jésus. C'est pas rien. On y vient tout de suite. Mais dans l'annonce à Joseph, au début de l'évangile de Matthieu, voilà, au chapitre 1, verset 18, vous voyez, il y avait un peu de l'eau dans le gaz là, parce que entre Marie et Joseph, forcément, Marie se retrouve enceinte, et ça ne vient pas de Joseph. On peut comprendre que ça n'allait pas tout seul, hein. Et Joseph a fait un projet suite à ce qui se passe. Son projet à lui sera de ne pas faire un esclandre public, mais de répudier secrètement Marie. C'est le projet qu'il a formé. Et Joseph va être un homme qui est capable de ne pas être prisonnier de ses projets. Et voyez là où il peut beaucoup nous aider. Parce que nous ne devions pas prisonniers de nos projets, pour laisser toujours le Seigneur ajuster nos projets pour un surcroît de vie et d'être. Saint Joseph, qu'est-ce qu'il a vécu? Je lis avec vous ces versets. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la diffamer publiquement. Il résolut de la répudier secrètement. Il avait formé ce projet, et voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Vous voyez, fils de David, hein? Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Voilà, et nous y sommes. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Vous voyez? Vient de l'Esprit Saint. C'est pas un soldat romain. Ça vient de l'Esprit Saint. Elle n'a pas été voir ailleurs non plus. Et elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus. Vous voyez, alors l'ange lui dit en effet que cet enfant ne vient pas de lui biologiquement parlant, puisqu'il est engendré de l'Esprit Saint. Vous voyez, donc l'incarnation, l'œuvre du Père qui engendre son Fils par l'Esprit Saint. Mais en même temps, l'ange dit à Joseph: tu as la mission d'être père pour cet enfant. Parce que le père donne le nom. Alors en même temps, il lui souffle le nom qu'il va donner. Mais c'est toi, Joseph, qui lui donnera le nom. Père donne le nom. Il est établi dans une mission de paternité déjà, par rapport à cet enfant. Qu'il va du reste très bien vivre. Enfin, on ne peut pas être dans les sentiments de Joseph, mais je vais dire qu'il va assumer, c'est ça que je veux dire en disant qu'il va très bien vivre, il va assumer cette mission de paternité, authentique paternité envers Jésus. Tu vas lui donner un nom. Voilà. Il s'appellera, tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà, l'ange dit là à Joseph que cet enfant qui va naître dans le sein maternel, dans le sein de Marie, et donc il reçoit la mission, lui, d'être père, quand bien même il n'est pas le père biologique, si on peut dire ça comme ça, eh bien, il aura ce nom-là, tu lui donneras ce nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà, là nous avons toute la compréhension de la mission de Jésus. Jésus, Dieu qui sauve son peuple, c'est-à-dire le peuple d'Israël, c'est-à-dire vous et moi, c'est-à-dire toute sa création et ses enfants que nous sommes, quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux ». Dieu, Jésus, quand je contemple Jésus, que ce soit dans l'adoration, que ce soit en le voyant guérir ce lépreux, nourrir cette foule, que sais-je, c'est Jésus qui est à l'œuvre de sa mission, qui est de sauver son peuple de ses péchés. Voilà. Mais voyez, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Mais, donc, l'œuvre du Père, par l'Esprit Saint, et vous vous rappelez hier, pour ceux qui étaient là, je vous disais, au sein de la Trinité, le Père, le Fils, l'Esprit Saint, c'est pas interchangeable, hein? Pas interchangeable. Chacun sa mission, chacun a sa place. Et l'un ne cherche pas à faire comme l'autre, à être comme l'autre, chacun bien unique. Et ça construit la vie. Et ça construit la vie. Voilà. Puis je vous avais fait le pendant, mais nous sommes à son image et ressemblance, nous les humains. Cherchons pas à être comme les autres. Soyons heureux d'être nous-mêmes. Et dans une complémentarité qui, à ce moment-là, quand elle est bien vécue, devient source d'une vie à naître. Mais c'est ce que nous avons maintenant sous les yeux. L'œuvre du Père, par l'Esprit Saint, troisièmement, dans un consentement humain libre. Le consentement de Marie, le consentement de Joseph. Marie et Joseph ne sont pas des marionnettes dans les mains de Dieu. Si Dieu s'incarne, c'est bien l'œuvre du Père, par l'Esprit Saint, dans un consentement libre de l'homme. C'est fondamental. Marie a la liberté qui est la sienne. Joseph à la liberté qu'elle a. Alors c'est vrai, quand on regarde la Vierge Marie, on se dit, oui, mais c'est vrai qu'elle, Immaculée Conception, n'étant pas marquée de la trace du péché, on peut difficilement imaginer que dans sa liberté, elle choisirait quelque chose qui serait contraire à la volonté de Dieu. Bon, ben c'est vrai, elle est Immaculée Conception. D'où l'intérêt de regarder Joseph aussi, parce que Joseph, lui, il est peut-être un peu plus comme nous. Il n'est pas Immaculée Conception. Ça veut dire que Joseph, tout homme juste qu'il est, nous dit l'Évangile, il est pécheur. Et là, il me ressemble. Il te ressemble. Il nous ressemble. La Vierge Marie est Immaculée Conception. Il n'y a pas la trace du péché en elle. Je ne développe pas ça ici, ce n'est pas l'enjeu. Mais Joseph, il est pécheur. Ah oui, mais il a consenti librement à cette mission que le Seigneur donne. Je lis les deux versets pour Marie et pour Joseph de ce consentement humain libre. Dans l'Annonciation à Marie, eh bien, nous trouvons ce consentement au chapitre 1 de Luc, le verset 38. Voilà. Après tout le dialogue avec l'ange, hein, c'est beau, mais ça veut dire qu'avec Dieu on peut dialoguer. N'hésitons pas, allons-y, hein, dialoguons avec lui. Hein. Que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit. Voilà. Consentement. Et l'ange auprès de la Vierge Marie va rester auprès d'elle pour lui annoncer le message, pour lui apporter les éclaircissements quant à sa question et pour recueillir la réponse de la Sainte Vierge. Recueillir son consentement, parce que la parole qui suit, c'est « Et l'ange la quitta ». Voilà. Pour Joseph, dans l'évangile de Matthieu, eh bien, il y a aussi ce consentement qui est exprimé d'accueillir cette mission qui est le fruit de l'Esprit Saint. Vous voyez ? Je dis la suite de là où on était arrivé. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Accomplissement de nos racines. Ce que le Seigneur avait dit par le prophète, deux points. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel. Et Emmanuel, nous savons, signifie Dieu avec nous. Ce qui se traduit Dieu avec nous, pardon, c'était la suite. À son réveil, parce que l'ange parlait à Joseph en songe, à son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Il pouvait ne pas le faire, hein? Il l'a fait. Voilà. Donc, le miracle de l'incarnation dont nous sommes appelés à nous émerveiller, c'est d'abord parce que si Dieu s'incarne, c'est pour venir naître au cœur de l'humanité telle qu'elle est, parce que cette humanité, le Seigneur ne peut pas se résoudre à la voir oppressée, et il vient pour la tirer vers le haut. Si vous voulez, Adam et Ève nous ont tous tirés vers le bas par le péché. Le nouvel Adam, tiens, comme on l'appelle parfois Jésus, hein, nouvel Adam, pleinement accompli, non pécheur, voilà, on parle parfois du nouvel Adam, de Jésus, il vient au cœur de notre humanité, il descend au plus bas de nos histoires, communes et personnelles, pour nous tirer tous vers le pays de Canaan, vers la terre pour laquelle nous sommes faits, nous sortir de nos oppressions. C'est ce qui nous empêche d'être un vivant. C'est ça, la mission de Jésus. Et c'est pour ça qu'il est tout loin de l'Esprit Saint. Voilà. Et il va faire cette mission en déjouant pour lui les pièges du tentateur. C'était l'évangile de dimanche. Les trois tentations. Voilà. Après cet équipement, pleinement loin de l'Esprit Saint, etc. J'espère que je ne fais pas trop des raccourcis qui mélangent tout le monde, hein. Mais c'est ça, vous voyez. Ne regardons plus Jésus comme un copain, s'il vous plaît. On peut l'aimer, Jésus. On sait qu'il nous aime. Mais ce n'est pas un copain. C'est Dieu qui vient naître dans notre histoire pour nous tirer vers le haut, pour faire de nous les vivants que nous sommes appelés à être. Et pour cela, ça vient parfois bouleverser des projets qui sont les nôtres. Comme ça bouleverse le projet de Joseph. Joseph a fait son projet. Prions Joseph de ne pas être prisonnier des projets mortifères parfois qui peuvent être les nôtres, c'est-à-dire des projets qui empêchent ce qui est appelé à être d'être. Voilà. Alors, avançons encore d'un pas. Ce miracle. Vous savez, Jésus va naître, il va naître à Bethléem parce que au moment où ils doivent enfanter, eh bien, l'empereur ordonne un recensement. Et donc, il faut aller... il faut aller dans sa ville, voyez, dans sa ville, la ville de ses racines, voyez. Et pour Joseph, la ville de ses racines, c'est Bethléem, dans Judée, à Bethléem. Alors avec Marie, voilà. Et il y a quelque chose de beau, hein, on l'a déjà vu hier, avec la présentation au temple. Mais là aussi, l'empereur ordonne un recensement, et Marie et Joseph, ils peuvent quand même se rendre compte que l'enfant qui est à naître, c'est pas n'importe qui, hein, c'est quand même le Fils de Dieu, il pourrait quand même être, pourrait avoir une petite dérogation quand même pour eux, non? Peut-être un empereur, tu sais, nous on attend le Fils de Dieu, on ne pourrait pas rester chez nous. Non, non, pas de passe droit. Pas de passe droit. Non, non. Avec tous ceux qui doivent se mettre en route vers leur ville de naissance, eh bien, ils vont se mettre en route. Ils vont se mettre en route. Ça devait être douloureux quand même. Oui, sur un âne. Marie est sur le point d'accoucher, puisqu'on sait qu'à peine arrivée à Bethléem, eh bien, voilà. Ils chercheront un endroit où elle peut donner naissance à Jésus. Donc, c'est pas facile. Et Joseph, mais il a dû prendre à plein sa responsabilité, là, d'époux, de futur père. Il devait être inquiet quand même aussi pour Marie. Vous savez, je parle beaucoup de Joseph aujourd'hui. D'habitude, je parle beaucoup de Marie. Mais je crois que Marie doit être contente qu'on parle de son époux. Je pense que dans un couple où on s'aime, et je crois que dans le couple de Marie et Joseph, ils devaient s'aimer, on doit être heureux qu'on parle de conjoint. Donc Marie doit être heureuse qu'on parle de Joseph, surtout en ce mois de mars. Où le fait-on le 19? Et voilà, Joseph prend à plein sa mission. Et puis Jésus va naître. Et puis, à un moment donné, leur tourne, hein. À un moment donné, oui, ça j'ai envie de souligner quand même, Jésus va naître. À ce moment-là, il y avait, je vais lire ça avec vous dans l'évangile de Luc au chapitre 2, voyez, on va fêter Pâques, hein, à Pâques. On va fêter la résurrection du Christ. Il n'y aurait pas de résurrection du Christ s'il n'y avait pas d'abord une naissance du Christ. Noël et Pâques, on ne peut pas dissocier ça. Et c'est pourquoi, durant ce temps de carême, eh bien, c'est bon aussi de nous remettre dans le cœur la grandeur de Noël et des enjeux de Noël. Et puis il se passe des grandes choses à Noël. Donc au chapitre 2, voilà. Elle l'emmaillota, elle le déposa dans une mangeoire, etc. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôte. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs, qui montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux, devant les bergers. Vous rendez compte, un ange du Seigneur devant les bergers, c'est pas des intellos, hein. Les bergers ne devaient sans doute pas avoir une très très bonne réputation non plus quand même. Vous imaginez aux grandes fêtes et tout ça, ben ils sont sans doute pas au temple, ils sont avec leurs moutons, ça mange aussi le dimanche. Hein? Les bergers. On va dire le bas du pavé. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, le bas du pavé. L'ange, après la naissance de Jésus, les premiers avertis de la naissance de Jésus, eh bien voilà, ce sont des pauvres gens. des pauvres gens, on va dire des petites gens. C'est pas, voilà. Dans le cœur de Dieu, il n'y a pas deux espèces humaines, on l'a vu hier, hein, mais aux yeux de la société, nous on est fort pour mettre des... Mais voilà, c'est des bergers. Ce sont les premiers avertis de la naissance de Jésus. Alors l'ange se présente devant eux, la gloire du Seigneur les enveloppa de lumière, ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit, soyez sans crainte, voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie. Ah voilà, ça c'est merveilleux aussi. Je vous annonce une bonne nouvelle, et cette nouvelle sera, c'est du futur, une grande joie. Voilà. Nous accueillons la bonne nouvelle de la naissance de Jésus, et peut-être que dans notre vie personnelle, c'est pas encore cette grande joie, parce que cette grande joie, elle est encore à venir progressivement, petit à petit. Notre chemin de vie, notre chemin de foi, c'est peu à peu, c'est pas à pas. C'est comme les disciples d'Emmaüs. Vous voyez, la bonne nouvelle de Jésus ressuscité qui marche avec ses disciples, qui vient naître sur leur chemin, et il est déjà ressuscité, il a, pardonnez-moi de faire encore un viaduc, mais de passer de la naissance à la résurrection. Mais c'est ça, vous voyez, cette bonne nouvelle d'un Dieu qui se fait présent au cœur de la vie, et puis en même temps, cette bonne nouvelle, elle est là, parce que c'est ici et maintenant, mais ce n'est pas tout de suite une grande joie pour les disciples d'Emmaüs. Ils vont marcher avec lui, ils ne savent même pas que c'est lui qui marche avec eux. N'empêche, cette présence est quand même bienfaisante. Et puis ce n'est qu'après que tout à coup, à un moment donné, à l'heure de Dieu, comme j'aime bien le dire, à l'heure de Dieu dans leur vie, au moment où arrivant près d'Emmaüs, il leur dit « Mais reste avec nous, Jésus prend du pain, etc. » Ils reconnaissent là quelque chose. Et du coup, voilà l'heure de la joie. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera, mais accepte de marcher. Le peuple d'Israël a eu 40 ans de traversée dans le désert, une marche progressive pour accueillir cette joie d'un Dieu qui vient faire renaître ta vie, mais pas avec un clic de souris, avec la démarche des disciples d'Emmaüs, avec la démarche du peuple d'Israël qui se fait remettre sur un chemin vers la terre de Canaan. Eh bien, nous, c'est pareil dans nos vies. Je vous annonce une bonne nouvelle, c'est là, qui sera une grande joie progressive pour tout le peuple. C'est moi qui rajoute progressive. Mais c'est ça qui sera. Et qu'est-ce qu'ils font alors après ça? Aujourd'hui, vous êtes né dans la ville de David. Voilà la bonne nouvelle et la grande joie. Un sauveur qui est le Christ. Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse qui chantait les louanges de Dieu et qui disait, etc., gloire à Dieu. Quand les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux, allons donc jusqu'à Bethléem. Voyons ce qui est arrivé. Ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils auraient pu aussi ne pas y aller. Mais c'est comme vous et moi. On peut ne pas aller à la rencontre de Jésus. Ah, eux, ils y vont. Ils y allèrent en hâte. Ils trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né, peut-être un âne et un bœuf, hein, couchés dans la mangeoire. Les premiers à s'être penché sur le berceau de Jésus sont des pauvres gens. Retenons ça. Sont des bergers, sans doute en partie déconsidérés d'un bon nombre. C'est pas des intellos, c'est des bergers. Des petites gens, comme on dit parfois péjorativement, c'est affreux. Il n'y a pas de petites gens dans le cœur de Dieu. Le crucifix dont je vous parlais hier, le sens que j'y ai trouvé, eh bien oui, Jésus est du côté des petits, des sans défense, il n'a pas de bras. Du côté des... Eh bien les premiers à s'être penchés sur le berceau de Jésus après sa naissance, c'est des petits. Et puis, Après, c'est très intéressant aussi ça. C'est que tout à coup arrive d'Orient, cette fois-ci, des mages. Nous les appelons les rois mages. Nous les représentons avec des couronnes, c'est tout autre chose qu'un berger. Hein. Et ils ont des coffrets en main, ils ont de la richesse, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Je passe ici, je passe pas sur l'explication de l'or, l'encens, la myrrhe, mais je viens signifier, oui, les pauvres et les petits se penchent sur le berceau de Jésus, mais Jésus il est là pour tous, il est pour être cette nourriture pour tous, y compris les rois, qui viennent de partout. Les rois mages qui viennent d'Orient, ils viennent de partout, voyez. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Il vient pour ce qu'on pourrait appeler le bas de la société et d'abord. Il vient pour le haut de la société. Et donc ça veut dire pour tout ce qui est entre les deux. Et avec les mages, et comme nous le rappelait Siméon hier, il vient pour toutes les sociétés. C'est ce que signifie aussi la présence des mages venus d'Orient, au berceau de Jésus. Au berceau de Jésus. Oui. Et puis, un moment, l'ange du Seigneur va confier une mission fondamentale à Joseph. Parce qu'Hérode va vouloir faire tuer cet enfant. Voyez, les mages avaient été trouvés Hérode pour lui demander, mais... où est né le roi des Juifs, vous pensez bien que ça ne doit pas très fort plaire à Hérode, hein? Et puis en plus Hérode ayant été joué des mages qui ne sont pas revenus chez lui après, est entré dans une colère et il a pris la décision de faire tuer tous les enfants jusqu'à 2 ans dans Bethléem et les environs pour être sûr qu'au moins Jésus soit zigouillé. Qu'est-ce que le cœur de Dieu a dû souffrir et pleurer, et le cœur des hommes, de ces familles qui ont perdu ces enfants. Nous les fêtons, nous les célébrons chaque 28 décembre, les saints innocents. Voyez. Et c'est pas à la Vierge Marie que l'ange s'adresse pour dire « Maintenant, il faut partir en Égypte. » C'est à Joseph. Joseph va exercer ce charisme de paternité qui est d'accueillir une vie qui lui est confiée, d'accompagner cette vie qui lui est confiée et de protéger cette vie qui lui est confiée. C'est un authentique charisme de paternité. Le vrai charisme de paternité, ce n'est pas d'engendrer encore 3 minutes, merci. 7 minutes, c'est merveilleux, j'avais mal vu. Et l'authentique charisme de paternité, c'est pas d'engendrer, ça demande d'avoir une relation sexuelle avec une femme, ça demande peut-être pas trop de charisme, hein. Enfin, quoique, mais j'en sais rien. Alors, mais l'authentique charisme de paternité, c'est d'accueillir une vie qui a été confiée, accompagner cette vie, élever cette vie, protéger cette vie. Et c'est ce que Joseph va faire. Et quand la vie de l'enfant est en danger, parce qu'Hérode a décidé de supprimer tous les enfants jusqu'à 2 ans dans Bethléem et les environs, eh bien, c'est en effet à Joseph que le Seigneur s'adresse. C'est son job, c'est sa mission, c'est son charisme, c'est sa paternité qu'il doit la pouvoir aussi exercer dans un moment difficile. Voyez, c'est ce que nous appelons la suite, la fuite. La fuite en Égypte. La fuite en Égypte dans l'évangile de Matthieu. Je terminerai avec ça. Enfin, je pense. Au chapitre 2, verset 13. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit, lève-toi. Prends avec toi l'enfant et sa mère. C'est à Joseph qu'il s'adresse. Pas à Marie. Fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à nouvel ordre. Car Hérode a décidé, etc., etc. Fuis en Égypte. L'Égypte, ça ne dit rien qui vaille de bon, hein? Pour un fils d'Israël. L'Égypte, oui, c'est peut-être le lieu où les patriarches allaient se réfugier un peu dans le delta du Nil quand c'était la sécheresse ou la fatigue, c'est, ou la famine, parce que c'est du coup un lieu où on ne va pas mourir de faim. C'est le lieu de la survie, voyez. Et le Seigneur est en train de dire à Joseph, prends ta femme et l'enfant et va là. En plus, rappelons-nous ce que je vous ai dit tout à l'heure, en Égypte, on a failli mourir. Nous, le peuple d'Israël, on a failli mourir en Égypte. C'était pas aller en Égypte pour voir les pyramides, hein? Non. L'Égypte, pour le dire autrement, c'est le lieu où spontanément, on n'irait pas. Et l'ange du Seigneur lui dit, Joseph, lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. C'est le lieu où spontanément tu n'irais pas. Joseph, pour vivre sa paternité envers Jésus, et vivre sa mission d'accompagner cette vie qui lui est confiée, et de la protéger, eh bien, va accueillir d'être contrarié. Et puis figurez-vous que quand Hérode va mourir, l'ange va lui dire, mais reviens en Israël. Ah ben Joseph, on pourrait imaginer, chic, on retourne à Bethléem, ici il est de la famille, de la lignée de David, de Bethléem. Et là encore l'ange vient lui dire, tu sais, c'est vrai, Hérode est mort, mais c'est Archélaus qui règne sur la Judée, son fils, c'est pas trop plus sûr. Hein? Donc, va plutôt en Galilée, à Nazareth. Oh! Galilée, à Nazareth. Mais vous rendez compte? Mais c'est l'abomination. Pourquoi? Parce qu'on se demandait à l'époque si en Galilée, il y avait encore des Juifs dignes de ce nom. Vous voyez? Parce qu'au 8e siècle avant Jésus, il y a eu la colonisation de l'Assyrie, capitale Ninive, et donc la population de la Galilée a été cette population colonisée par les Assyriens, et du coup, à Jérusalem, mais on se demande, est-ce qu'en Galilée, et là à Nazareth, est-ce qu'on trouve encore des Juifs? Voilà, qui font, est-ce qu'on sait encore le peuple de Dieu? Donc vous voyez, et il va devoir retourner avec Jésus. Vous voyez où le Messie va grandir à Nazareth, là où on se demande si c'est encore le peuple de Dieu. Je m'arrête là. Ce soir, on s'est remis dans le cœur et sous les yeux cette grandeur de l'amour de Dieu sans limite pour l'homme, au point qu'il s'incarne lui-même. C'est son œuvre à lui. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Et ça a demandé le consentement aussi libre de l'être humain. Alors, si vous le voulez bien, confions à la Sainte Famille chacune de nos familles. Et pas seulement pour confier comme ça, c'est parce que la Sainte Famille, c'est Jésus qui vient naître au cœur de nos histoires pour ouvrir un chemin. C'est cette bonne nouvelle qui sera joie. Alors Saint Joseph, Sainte Marie, nous vous confions nos familles et on va prendre 10 secondes, 15 secondes de silence pour que nous puissions mentalement présenter à la Sainte Famille une situation peut-être de nos familles dans laquelle on demande et on implore la naissance de Jésus. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie. Pleine, on ne va pas aller plus vite parce qu'on connaît. Pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur tourne vers nous son visage. Qu'il tienne le mal éloigné tout au long de cette nuit, qu'il nous garde bien dans sa paix et dans sa bénédiction, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen.
Amen. Bonne nuit.